www.libradio.org. Libre Radio, la radio qui t'écoute. Soutiens la radio. Cagnotte populaire solidaire sur le site, merci.
Bonjour Antoine, bonjour Théo, vous êtes tous les deux membres d'un groupe plus grand que vous, qui vous dépasse, qui vous transcende, qui est le comité, le Rojava Comité Genève, pardon, et que vous venez présenter un petit peu aujourd'hui à l'occasion de la journée de lancement de la grève du 15 mai. Nous sommes à la Maison des Associations et aujourd'hui nous sommes le 25 janvier. Bienvenue, merci d'être parmi nous. Et alors, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce donc que le Rojava Comité Genève ?
Merci de nous accueillir. Alors le Rojava Comité Genève, c'est un groupe de personnes qui se sont réunies sous l'offensive qui a débuté en octobre, le 9 octobre 2019. L'offensive turque qui a décidé d'établir une safe zone dans la région du Rojava, qui a décidé, donc ce comité s'est créé sous l'impulsion de l'attaque afin de diffuser des informations sur l'actualité là-bas, des informations en français, afin d'organiser des mobilisations et d'organiser un petit peu différentes choses, histoire de faire vivre la lutte et connaître un peu la problématique en francophonie ou en romandie.
Qu'est-ce que le Rojava, qu'est-ce que ça signifie, ce mot-là ? Est-ce une région géographique ? Et non seulement géographiquement, quel est son sens ? Mais au-delà de ça, est-ce que ça représente quelque chose d'homogène, quelque chose qui a trait à des valeurs, à des engagements ?
Alors oui, c'est une zone géographique tout d'abord, qui se situe dans le nord-est de la Syrie. Et après, bah oui, c'est ça. Enfin, t'as parlé de valeurs, et du coup, en fait, c'est un espace où il se passe une révolution, et c'est à partir de ce constat de cette révolution et des valeurs qui sont portées par cette révolution que moi j'ai été en tout cas été intéressé et été attiré par les idées qui sont promulguées et mises en place. Par le confédéralisme démocratique, en fait.
On va entrer dans l'idée, dans la notion de confédéralisme démocratique, des liens que cela entretient avec le municipalisme libertaire ou pas. Vous nous détaillerez ça. Mais avant cela, j'aurais envie de vous questionner sur peut-on confondre Rojava dans le Kurdistan ou pas ?
Alors Rojava, dans les faits, ça veut dire le Kurdistan de l'Est, en fait. De l'Ouest, pardon. C'est la partie ouest du Kurdistan qui s'appelle Rojava.
Et qui se situe donc en Syrie du Nord.
C'est un mot kurde donc il y a le Rojava, le Rojilat, Bachour et Bakour. C'est les quatre régions du Kurdistan. Toutes quatre séparées dans quatre pays différents.
Qui sont l'Irak, l'Iran, la Syrie
et la Turquie.
Et alors, il se trouve qu'effectivement, en Rojava, à court, cette révolution que l'on nomme confédéralisme démocratique, voudriez-vous nous en dire un peu plus, en quelques mots, hein, origine, et puis quelles en sont les pratiques. Et puis ensuite, je vous questionnerai bien entendu également sur la figure que représente, si c'est encore le cas, la figure d'Abdullah Öcalan, bien entendu, qui est incarcéré depuis maintenant longtemps. Mais voilà, et ensuite on fera les liens avec le climat, puisque nous sommes ici aujourd'hui à Genève en train de parler de la grève climat.
Ce qui est intéressant avec le système qui est mis en place là-bas, c'est, je dirais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme d'autonomie, en fait, qui fonctionne dans des municipalités. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant et qu'on pourrait prendre comme exemple à appliquer, en fait, dans d'autres régions du monde et de s'intéresser à cette forme d'autonomie politique. Et du coup, l'autonomie politique, après, elle s'ensuit avec d'autres thématiques comme l'agriculture, l'écologie, le féminisme ou d'autres thématiques comme celle-ci.
Très bien. En quoi, selon vous, tu voulais compléter Théo ?
Ouais, peut-être. En mode que le confédéralisme démocratique, le but est de créer une sorte d'administration, une sorte de gérance d'une société sans État, en fait. Donc le but, c'est que le pouvoir soit réparti au sein directement de la population, mais de façon extrêmement directe. Il se réclame d'une démocratie radicale, dans le sens où les prises de décision ne sont plus prises par le haut vers le bas, mais complètement inversées, sont prises du bas vers le haut. Ce qui fait qu'il y a des entités qui s'appellent des communes, qui sont mises en place et qui sont créées à l'échelle de villages, de rues, de quartiers, etc., et qui prennent elles-mêmes leurs propres décisions vis-à-vis du système de santé, système d'éducation, même le système de loi est mis en place et décidé par ces communes-là. Et dès le moment où il y a des besoins qui ne sont plus où cette échelle locale n'est plus suffisante pour, par exemple, débloquer des fonds pour une route ou dans un quartier, il y a, imaginons, une centrale hydroélectrique ou quelque chose comme ça, il y a des échelons supérieurs qui s'appellent, par exemple, des conseils. Les communes, après il y a les conseils, et puis après il y a les communes, il y a les comités, et après il y a les conseils. Donc tout ce qui régisse à une échelle complètement différente, jusqu'au conseil qui gère un petit peu les relations diplomatiques au niveau international, et, etc.
En quoi, selon vous, ces pratiques sont-elles révolutionnaires ? Premier volet de la question, deuxième volet, est-ce que l'on pourrait parler là de négation ou de dépassement de l'État-nation tel qu'on l'entend en Occident ? Enfin, dans ce qu'on nomme l'Occident, quoi.
Ben, là, ta réponse est dans la question. C'est proprement ça qui est révolutionnaire. C'est qu'en fait, ça conteste complètement le concept d'État-nation et que justement, ça ne se revendique pas d'une indépendance, en fait. Au sein de la révolution qui a débuté en 2012, etc., et qui a, en fait, où beaucoup ont cherché à recréer un propre État, à recréer une sorte, une administration propre en reprenant des concepts étatiques. Le Kurdistan, ou bien les Kurdes de Rojava et beaucoup d'autres minorités, yézidis, arabes, etc. Ce n'est pas uniquement les Kurdes, vraiment Rojava, c'est important de le spécifier. Ont repris un système qui rejette complètement les bases d'un État-nation et de tous les mécanismes oppressifs en fait, que les États-nations, accompagnés du capitalisme ou même du communisme étatique, peuvent représenter. Quoi.
Oui. Est-ce que l'appellation Fédération du Nord et de l'Est de la Syrie est-elle acceptée, acceptable, revendiquée ou quoi pour désigner le Rojava ?
C'est le nom officiel que l'administration autonome se donne pour cette région.
D'accord. Et lorsque l'on parle de confédéralisme démocratique, eh bien, on ne peut pas ne pas parler de municipalisme libertaire, de rappeler quelques figures tutélaires comme, effectivement, Murray Bookchin, mais également de Abdullah Öcalan. Voudriez-vous nous dire en quelques mots qui est Abdullah Öcalan et qu'est-ce qu'il représente au Rojava actuellement ? Puis ensuite, on en viendra à la situation actuelle, si vous aviez envie d'en dire quelques mots.
Moi, de ce que je sais, c'est que Abdullah Öcalan, il a théorisé en fait le confédéralisme démocratique en s'inspirant d'autres écrits et notamment sur des écrits de Murray Bookchin et que en fait maintenant encore le fait est qu'il est en prison depuis plus de 20 ans. Et il reste en fait une figure emblématique et d'espoir et de volonté en fait dans son projet de société de démocratie radicale et, des sujets révolutionnaires.
On peut rappeler qu'il est quasiment au secret, il est sur une île prison turque et que je ne sais pas si la situation a changé, mais que pendant en tout cas là une dizaine d'années, il a pu recevoir aucune visite et qu'il était vraiment à l'isolement pour effectivement qu'il ne puisse pas s'exprimer, pour que d'une certaine manière on puisse l'oblitérer, l'oublier d'une certaine manière.
C'est quelqu'un qui a une telle influence sur la population et sur le Moyen-Orient de façon générale et même sur le monde qu'il a été complètement coupé du monde. Même ses avocats n'avaient pas la possibilité de le visiter. Et donc l'année passée, il y a eu une grève de la faim qui a été menée par près de 7000 personnes. Des grèves de la faim qui ont été lancées par Leila Guven, une femme super, qui a lancé le mouvement, et il y a eu des grèves de la faim dans le monde entier, dans énormément de prisons en Turquie, il y a eu même des grèves de la faim ici à Genève. C'était un mouvement mondial pour réclamer la fin de l'isolation de Abdullah Öcalan, parce qu'il représente vraiment un symbole d'espoir extrêmement important pour cette révolution sociale qui est mise en place. Et voilà, il représente un danger, donc d'où la création de cette île prison où ils sont seulement trois pour un complexe pénitentiaire énorme avec plus de 150 personnes qui les gardent. Enfin, c'est abusé, quoi.
La situation du Rojava, au jour où on en parle, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, il y a eu cette guerre avec cette zone tampon qui a voulu être créée. Beaucoup de confusion a régné entre le retrait des Américains ou pas, partiel ou pas, Poutine qui intervient d'une manière ou pas, le rôle d'Assad là-dedans. Des informations sont arrivées un petit peu au compte-gouttes. J'imagine qu'il y a eu beaucoup également de fake news ou de false flags, hein, d'opérations sous couvert. Qu'en est-il de la situation ? Est-ce qu'elle est relativement lisible ? Et quelle lecture en faites-vous ?
Donc l'offensive qui a commencé le 9 octobre est toujours en cours. Elle n'a pas stoppé. Elle était extrêmement intense dans le premier mois, dans le sens où... En faisant écho en fait à l'attaque de Afrin, qui est un des cantons, le canton le plus occidental du Rojava, qui a été pris par la Turquie en janvier 2018. Là, cette fois, la Turquie a décidé d'attaquer sur le front complet, sur toute la frontière qui la lie avec la Syrie, donc avec le Rojava, et d'attaquer sur tous les fronts en même temps. Donc c'était extrêmement problématique. Il y a eu une mobilisation énorme et suite au départ des troupes américaines qui protégeaient l'espace aérien, des bombardements sur tout l'espace frontalier étaient extrêmement intenses. Beaucoup de gens ont perdu la vie, énormément de déplacés, plus de 400 000 personnes qui ont dû être déplacées, etc. Donc la situation a changé au cours du temps. Les troupes turques ont décidé avec leurs alliés qui sont des milices en fait, qui sont employées par l'État turc, qui sont pas mal de milices qui se rapprochent malheureusement beaucoup de Daesh, qui sont un peu leurs petites mains et qui sont l'infanterie, la Turquie dirigeant les opérations depuis le haut et puis balançant des bombes par leurs avions. Ils ont décidé de couper le pays en deux et vers Serikanye, Girespi, ils ont commencé, donc à peu près le milieu du pays, du milieu du Rojava, ils ont décidé de scinder le pays en deux afin de bloquer les communications entre l'est et l'ouest du pays. Donc plutôt que d'attaquer complètement sur toute une bande,
par un front continu,
ils ont décidé d'avancer par le milieu et ensuite de s'étendre. Donc c'est ce qu'ils sont encore en train de faire. Ils essaient de prendre possession d'une bande de 30 km à l'intérieur de la frontière du Rojava, disant que le but est d'empêcher donc les terroristes, qui sont les troupes qui défendent le Rojava et sa population, d'intenter de lancer des attaques sur la Turquie. Ce qui est bien sûr un prétexte, étant donné qu'il y a une immense quantité de Kurdes en fait en Turquie, qui sont, c'est une vraiment grosse minorité en Turquie, et ils représentent vraiment un danger, en tout cas pour le gouvernement dictatorial qui est mis en place maintenant par l'AKP et le régime d'Erdogan. Le but, c'est que si tout d'un coup il y a dans un pays voisin il y a une insurrection qui est en train de se mettre en place, qui donne espoir aux populations kurdes vis-à-vis d'une sorte d'indépendance ou vis-à-vis d'une... D'une prise de position dans l'espace public, etc. Et en fait d'une prise de force. Ben, ils ont peur que les populations kurdes à l'intérieur de la Turquie se soulèvent également et que ça crée un conflit et une sorte de semi-guerre civile, comme il a pu se passer il y a 20 ans en fait en Turquie.
Comment est-ce que vous êtes arrivé à rentrer en contact avec la réalité du peuple kurde?
Moi, je ne sais plus quand ça date, mais j'avais rencontré des Kurdes, notamment en fait au centre des droits de l'homme, à la maison des associations en fait. Et du coup, c'était comme ça que j'avais rencontré quelques personnes. Mais je dirais que ça s'est fait un peu par affinité ou pendant des rassemblements ou des manifestations. Voilà.
Théo, tu souhaites répondre également?
Oui, je pense, mais c'est aussi par le contact de camarades internationalistes qui font énormément de trajets là-bas, et en fait on a énormément de contacts avec des choses qui sont là-bas. Moi je fais aussi partie de la campagne Mekrojava Green Again, qui a pour but de mettre en place, de soutenir cette révolution qui est basée donc sur trois piliers, je ne sais pas si on l'a mentionné, sur l'écologie, la démocratie radicale et le féminisme. Et donc on cherche des fonds et on est vachement en contact avec les populations sur place pour mettre en place des projets de reforestation, etc. Donc ça nous met, en fait on est directement en contact avec des gens là-bas et la réalité, comment ça se passe. Il y a également beaucoup de gens autour de nous qui vont là-bas pour aider, pour supporter un petit peu la lutte qui est en train de se mettre en place là-bas.
Dernière question,
est-ce que vous êtes,
ensuite,
est-ce que vous êtes rempli d'espoir par rapport au futur du Rojava?
Je pense que c'est extrêmement... Personnellement, je suis assez sceptique vis-à-vis de la situation, étant donné que une population est complètement dépendante des empires qu'il a, en fait, des alliances qu'elle crée avec les empires en fait qui l'entourent, la Russie ou les États-Unis, etc. Et c'est des alliances qui sont extrêmement intéressées du côté des puissances en fait, qui leur prêtent tantôt des troupes, tantôt une couverture aérienne, etc. Ce qui fait que sur le long terme, oui, j'ai confiance et je me bats, on se bat pour que en fait ce projet puisse donner lieu. Mais c'est sûr que le contexte est extrêmement difficile, et nous-mêmes et puis la population kurde là-bas, les camarades qui sont là-bas et qui luttent, se posent énormément ces questions aussi. Mais le fait est que c'est une réalité. C'est une réalité qui existe. Cette révolution existe. Il y a des gens qui vivent à l'intérieur de cette réalité-là, et en fait, il faut, au jour le jour, il faut continuer à la faire vivre et à y croire pour le faire. Et en fait, ben, je pense qu'il y a 4 ans, même chose, quand il y a eu une dernière offensive de la Turquie qui était extrêmement intense, on s'est dit, mais c'était la fin aussi. 4 ans après, on est encore là. Donc,
Antoine, Théo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il y a de nombreuses questions que l'on n'a évidemment pas pu aborder. On parlera de la communauté internationaliste de Derek, bien entendu. On parlera de vos actions pour en terminer, parce que là, vous êtes requis pour d'autres activités. Voudriez-vous juste dire comment est-ce que les personnes qui souhaitent se renseigner plus en avant peuvent-elles vous accoster? Est-ce qu'il y a un site internet, les réseaux sociaux, c'est plus comme ça?
Ouais, là, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui s'appelle Rojava Comité Genève, et aussi une page Instagram qui a du même nom en fait.
On a aussi un canal Telegram qui diffuse énormément d'informations de mobilisation et d'actualité, un petit peu de ce qui est en train de se passer là-bas.
Nous, on mettra tous les liens, bien entendu. On se retrouve très vite pour continuer de discuter de tout cela. Merci à vous et bonne continuation.
Merci.
Merci, c'est cool.